Il est bien le pape François. Tous les jours, il nous donne une méditation. Et nous avons tous des ennemis, le pape François. Nous avons tous des ennemis. Et oui, il dit ça parce que, à un autre moment, il avait dit, mais vous aimez ses ennemis. Mais déjà, ça prouve qu'on en a. Déjà, ça prouve qu'on en a. Nos jambes, par exemple, sont nos ennemis. Nos pieds sont nos ennemis. Notre chair est notre ennemi. Alors, donc, si on a des ennemis, s'il faut aimer les ennemis, ça veut dire qu'on en a. Et là, je dis, oh, mon gros, j'ai pas d'ennemis, moi. Et là, bon, t'as pas d'ennemis. Nous avons tous des ennemis. Nous avons tous des ennemis faibles, des ennemis forts. Mais si souvent nous devenons aussi des ennemis, mais tellement souvent, nous aussi nous devenons des ennemis pour les autres. Ah, nous avons tous des ennemis, nous ne les portons pas dans notre cœur, nos ennemis, sinon ce ne seraient pas nos ennemis, nous avons des ennemis. Et Jésus nous demande pourtant de les aimer. Ah, ce n'est pas une chose facile. Il nous arrive de penser que Jésus nous demande un peu trop, qu'il exagère, que cette exigence d'aimer les ennemis est bonne pour les moniales, les carmélites, qui sont les grandes saintes. Ce serait pour une obligation pour quelques âmes saintes et pas du tout pour les gens normaux. Que Jésus nous demande de ne pas avoir, oui, Jésus nous demande de ne pas avoir cette attitude qui ressemble à celle des publicains, des païens, et qui n'est pas celle des chrétiens. Jésus nous conseille de prier. Et pour aimer nos ennemis, il nous conseille de prier pour nos ennemis. De prier pour eux. Ceux qui nous persécutent, par exemple. De prier beaucoup pour eux. Et de prier toujours. Et est-ce que je prie pour mes ennemis? Pour ceux que je ne porte pas dans mon cœur? Pour qu'ils soient bénis? Et si la réponse est positive, alors c'est bien. Et il faut continuer à aller à de l'avant. Mais si la réponse est négative, le Seigneur nous dira, « Misérable, toi aussi, tu es l'ennemi des autres. » il faut prier pour nos ennemis. C'est pour que le Seigneur convertisse nos cœurs. C'est pour que le Seigneur fasse que nous soyons l'ennemi de personne. Apprenons à aimer même les personnes qui nous ont fait des torts immensément grands. Pour ne pas nous appauvrir, prions, aimons nos personnes, ces personnes-là. Prions pour ces personnes-là pour ne pas nous appauvrir nous-mêmes. Appauvrir notre sainteté, appauvrir notre chrétienté, appauvrir notre humanité. Sinon, ce sera la loi du talion, dent pour dent, œil pour œil. Et ce sera la victoire de l'ennemi. Et de nos ennemis. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Eh bien, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses ennemis. À donner sa vie pour son enfant, pour le sauver du danger, au risque de sa vie. Ça, peut-être qu'on le ferait, mais donner sa vie pour sauver quelqu'un qui fait beaucoup de mal, qui nous fait beaucoup de mal. Et Jésus, au fond, c'est ça. Quand Jésus dit ça, il dit bien ce qu'il fait, quoi. Il dit, lorsque nous sommes à l'intérieur, lorsque nous sommes dans la... Lorsque nous sommes dans la messe, lorsque nous sommes dans l'Eucharistie, lorsque nous sommes sur la croix, parce que quand on est à la messe, on rentre à l'intérieur de la croix, on rentre à l'intérieur de Jésus crucifié, quoi. Et donc on est sur la croix, on est à l'intérieur de Jésus qui est en train de livrer sa vie, quoi. Il donne sa vie. Et parce que tout ce qu'il va faire à Dieu le Père, il le fait pareillement, lui. Et le Père, lui, il donne la vie à ceux qui font du mal. Il continue à leur donner sa présence, sa bénédiction, sa tendresse, sa bienveillance, sa grâce, sa bonté. Voilà. Et Jésus sur la croix, eh ben, il demande pardon, il demande pardon, il demande pardon pour eux, que surtout il n'y a rien qui leur tombe dessus, venant de leur, du mal qu'ils nous font, qu'ils font, tout simplement. Ils abîment tout, mais c'est vrai, ils abîment tout, c'est vrai, ce sont des ennemis, mais il faut toujours avoir cette phrase à la bouche, finalement. Je demande pardon, je demande pardon, je demande pardon, je demande pardon, je demande pardon. Jésus demande pardon tout le temps, tout le temps. L'Immaculée demande pardon, Marie, elle demande tout le temps pardon. Marie qui sent péché, elle demande tout le temps pardon. C'est ça, c'est l'absolution en personne. C'est le pardon en personne. C'est l'incarnation, c'est la demande de pardon qui s'incarne. C'est la supplication, c'est l'aspiration, c'est celle qui arrache de la grâce, de la bienveillance et de l'éternité bénie et bienheureuse à ceux qui ne la méritent pas, parce que nous n'avons pas mérité la grâce. Jésus nous a mérité la grâce. L'Immaculée a demandé pardon pour nous. Et il demande pardon et d'ailleurs, on dit tout le temps, priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, maintenant et à l'heure de notre mort. À l'heure de notre demeure, c'est extraordinaire, comme à l'heure de notre mort, l'Immaculée, tout le monde, elle est là. On a dit des millions de fois déjà au Seigneur Marie, des millions de fois on a dit, et à l'heure de notre mort, à l'heure de notre mort, priez pour nous, à l'heure de notre mort. Des millions de fois on a dit ça. Tu crois qu'elle n'est pas là? Elle est là, tu penses, elle demande pardon, elle demande pardon, elle demande pardon. Demande pardon, le pauvre père Patrick. Non, tiens pas compte de tout ça. C'est un très très grand ennemi. Demande pardon, un très très grand ennemi. Et c'est un très grand ennemi. C'est un ennemi, c'est sûr. Nul n'a mérité la grâce que Jésus, que Marie, c'est vrai. C'est vrai, il y a quelque chose à bien entendre là-dedans. C'est que si Jésus nous demande d'aimer nos ennemis, c'est qu'il nous demande toute la place à l'intérieur de nous pour qu'il puisse demander pardon, lui, en nous. Ah, je demande pardon, je demande pardon. Ça, c'est la première chose, c'est sûr, il faut aimer nos ennemis, aimer. Il faut les aimer, c'est-à-dire donner sa vie. Ah, mais qui peut donner sa vie? Je m'excuse, mais enfin, si tu as quelqu'un que tu aimes énormément, 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 et puis des enfants, par exemple, ton propre enfant qui est vraiment très, 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 très belle, très innocente, très pure, etc. Et quelqu'un vient pour la détruire, l'écraser, la broyer, la salir, etc. C'est un ennemi qui fait ça. C'est un ennemi qui fait ça. Comment est-ce que tu vas donner ta vie pour cette personne dans l'immédiat? Non, tu vas donner à ton grand coup de poing dans la figure pour qu'il s'en aille de la maison. C'est sûr. C'est évident. Grand coup de poing dans la figure, c'est vrai. Donc Jésus ne nous demande pas, apparemment, c'est pas ça qu'il nous demande, non, il nous demande de laisser rentrer à l'intérieur de nous son union hypostatique déchirée. Que c'est lui qui demande pardon. C'est lui qui va demander pardon. C'est lui qui va demander la bénédiction pour cette personne-là. C'est lui qui va demander la bienveillance, c'est lui qui va demander la tendresse de Dieu pour cette personne-là. Et puis c'est pas psychologique, hein, pas du tout psychologique, parce que dit oui, mais tu comprends, un ennemi, il faut savoir l'amadouer, le prendre par le... pas dans le contraire, pas dans le sens contraire du poil. C'est comme ça, grâce à ça, ça ira un petit peu mieux, il sera moins violent. Et oui, tu vas amadouer celui qui te torture, ton geôlier, quoi. Comme ça, la situation sera moins douloureuse. Et non, ça, ce serait psychologique, ce serait une espèce de démarche enveloppante, une tactique. C'est pas de l'amour, il y a que Jésus qui demande pardon, il y a que Jésus qui aime. Pourquoi? Parce qu'il donne sa vie. Aimez vos ennemis. Celui qui donne sa vie. Celui qui aime, ben, donne sa vie. Il donne sa vie pour celui qu'il aime. Aimez vos ennemis comme moi je vous ai aimé. Voilà. Et donc ça veut bien dire quelque chose, c'est ce qu'il dit le pape finalement. C'est la prière qui fait qu'on aime nos ennemis. Pourquoi? Parce que la prière fait que c'est Jésus qui nous envahit. Notre cœur disparaît. Et c'est le cœur de Jésus qui bat dans notre poitrine et qui se déchire pour que ces ennemis-là deviennent... pour que ces ennemis-là soient remplis de la tendresse de Dieu. Envahis par la tendresse de Dieu. Bouleversé par la réponse de Dieu à la haine féroce. Et que même s'ils n'en sont pas bouleversés, ça ne fait rien. Il y a toujours la bienveillance. Il y a en eux la certitude totale, parce qu'elle est démonstrative, elle est sentie, elle est donnée, elle est certaine que Dieu les prend le jour où ils disent oui. Il y a la bienveillance. On passe de la tendresse et à la bienveillance. Et c'est Jésus crucifié qui est comme ça. C'est ça qui est extraordinaire. Quand Jésus crucifié, lui, il se trouve dans l'action de grâce parce que il sait que dans la chair, la nature humaine tout entière à travers lui est sauvée. Elle est sauvée, elle est libérée, pas seulement sauvée et libérée, mais elle est envahie. Elle est envahie par une force de tendresse, d'amour et de bienveillance qui atteint le fond même de toutes les plus grandes cruautés humaines. Alors du coup, il y a une joie sourde de Jésus crucifié. Alors vivez dans l'action de grâce. Vous voyez, c'est ce qu'il y a dans l'épître. Vivez dans l'action de grâce. Parce que si vous avez, dans l'épître aux Colossiens, si vous avez la tendresse, la bienveillance, l'amour, etc. Bon. Alors, vous pouvez vivre dans l'action de grâce. Alors, il faut savoir quand même une chose, sur le plan biblique, notre petite culture personnelle, notre petite culture. L'action de grâce, c'est un sacrifice. L'action de grâce, quand on célèbre l'action de grâce, par exemple, on célèbre la messe, c'est une action de grâce. Vous traduisez action de grâce en grec, c'est-à-dire dans le langage du Nouveau Testament, et ça donne Eucharistie. Eucharistie, ça veut dire action de grâce. Je t'offrirai sacrifice d'action de grâce. L'Eucharistie, c'est Jésus crucifié. Et on reçoit en nous la communion. C'est-à-dire Jésus crucifié rentre en nous, et il faut qu'il prenne toute sa place, parce qu'il ne faut pas le mettre à l'étroit, quoi. Il faut qu'il prenne toute la place, une espèce d'invasion, et que ça déborde, et que ça aille dans la nature humaine tout entière à travers nous. Et à ce moment-là, c'est ça, c'est l'action de grâce. Marie, c'est l'action de grâce. Marie, en elle, il n'y a que l'action de grâce. C'est l'union hypostatique des chairs de Jésus, incarnée en sponsalité. Incarnée en sponsalité, en épousée. Elle fait renverser presque, j'allais dire, l'engendrement de la lumière, née de la lumière dans Jésus crucifié, en épousée dans l'époux, un créé éternel. Elle fait l'action de grâce est telle que c'est un basculement qui se fait de la première à la seconde procession, dans l'aspiration de la chair et du sang. C'est une action de grâce. Elle-même, l'Immaculée Conception, elle a été sauvée par l'union hypostatique de Jésus désiré. L'Immaculée Conception, elle a été sauvée. C'est une grâce qui vient de Jésus crucifié. Marie, c'est une grâce. Marie, dans son Immaculée Conception, reçoit la grâce de Jésus crucifié qui demande pardon. Cette demande de pardon est tellement forte qu'elle s'incarne. Cette demande de pardon est tellement forte qu'elle s'incarne et cette incarnation s'appelle l'Immaculée Conception. C'est ça la définition dogmatique. Souvent, quand vous lisez des messages, disons, vous avez l'impression que Dieu crée une femme qui avait des privilèges, une créature parfaite, sans péché, complètement sans péché, complètement remplie de grâce, pleine de grâce, pas atteinte par le péché originel, etc., etc. Mais ça, c'est pas ça le mystère de Marie Immaculée Conception. Le mystère de Marie Immaculée Conception, c'est qu'elle est sauvée par le Christ. Ça, c'est des étincelles à côté, quoi, qui sont des conséquences. Mais le principe, ou si vous voulez, la personne de l'Immaculée Conception, c'est pas ça du tout. Sinon, ça voudrait dire qu'elle est équivalente à la Ève et à Adam. Et c'est ce qui n'est pas du tout vrai, c'est totalement faux. C'est totalement faux, totalement. Voilà. Et donc, vous voyez, c'est ça qui est beau de voir que Marie, c'est l'action de grâce. Dès qu'elle a un miroir dans le cœur de Jésus qui bat dans la poitrine d'un être béni de la même onction rédemptrice, tout de suite c'est Magnificat qui éclate. Elle comprend qu'elle vient de Dieu qui demande pardon dans le sang du Messie, dans le sang, dans l'union hypostatique de Jésus. Dieu s'engloutit dans une chair sanglante. Il s'engloutit dans une chair sanglante et il demande pardon. Il donne sa vie, il donne sa vie. Il donne sa vie personnellement, c'est-à-dire sa vie divine, personnelle. Il donne sa vie, c'est pour ça. Ce qu'il y a à l'intérieur de la vie de Dieu, dans sa personne, c'est quoi? Mais il donne sa vie, ça veut dire qu'il demande pardon, il aime tous ses ennemis. Ceux qui ont dit non, Seigneur, non. Non, je préfère faire ma volonté quand même. Non, pas ta volonté, mais ma volonté. Moi, je trouve que c'est ça qui est bien. Je trouve que ça, c'est pas assez. Ça ne me plaît pas. Alors, on dirait les ennemis de Dieu, hein, c'est vrai. Non, non, pas ma volonté. On est tellement habitué à ça. Mais c'est ce que je vois qui est bien, que je veux et que je préfère. C'est ma volonté, c'est mon discernement, c'est ma volonté. Et moi, si je trouve que c'est mieux qu'il y ait des, si je trouve que c'est mieux qu'il y ait des poissons, c'est ma volonté. Mais moi, si je trouve que c'est mieux qu'il n'y ait pas de poissons, c'est ma volonté. Mais non, mais moi je te dis que non, Seigneur, c'est mieux qu'il n'y ait pas de poissons. Ben non, moi je te dis que moi, c'est beaucoup mieux qu'il y ait des poissons. Ah, je trouve que c'est beaucoup mieux qu'il y ait une croix. Mais non, moi je te dis que c'est beaucoup mieux qu'il n'y ait pas de croix. Ah bon? Et moi je te dis que c'est beaucoup mieux qu'il y ait... Moi je te dis que c'est beaucoup mieux qu'on aille tous les deux à la messe. Mais non, moi je te dis que c'est beaucoup mieux que chacun y aille de son côté. C'est toujours... Dès que tu dis moi je, c'est sûr que tu es un ennemi de Dieu. C'est très simple. Dès que tu dis moi je, c'est sûr que tu es un ennemi de Dieu. Voilà, c'est ça qui est extraordinaire. Dans la mort, dans le cœur... Un amour beaucoup plus fort que le tien, et cet amour plus fort que le tien est dans le cœur de l'autre. Même un ennemi, si tu es capable de voir comment fonctionne ton cœur à toi, ton cœur d'amour, quoi, ton cœur spirituel, un de ces trois éléments-là, qui font l'esprit en nous, on a une capacité de cœur d'amour. Humain, voilà, on a une capacité de cœur d'amour humain qui est capable d'ailleurs d'aller aussi loin que l'amour divin. Parce qu'il est capable justement d'atteindre l'autre. Mais l'autre, ça peut être Dieu. Hein. Et donc, je suis capable, même un ennemi. Et ça, c'est des exercices qu'il faut faire. Et quand on dit qu'il faut faire, il y a des commandements, il faut faire ces exercices-là. C'est pas très compliqué. Ce serait pas mal d'ailleurs si on apprenait, par exemple, tu as des enfants, j'ai 12 enfants par exemple. Voilà, 5 filles et 7 garçons. Et chacun en vérifie chaque jour qu'il a fait un exercice d'amour de ses ennemis. Par le cœur spirituel. Pas très compliqué, hein. Tu dois faire un exercice. Alors voilà comment tu fais, tu vois. Quelqu'un qui est ton ennemi, allez, tu regardes que la personne qui vraiment te déteste, la dernière qui t'a critiqué, qui t'a calomnié, qui t'a dit, allez, hop, on veut pas de toi. La dernière, voilà. Je sais pas, j'imagine par exemple Saint Jérôme qui se retrouve le soir, après Saint Augustin, devant le pape lui arracher la barbe. C'est arrivé ça, Saint Jérôme et Saint Augustin se détestaient. Alors devant le pape, ils se sont frappés, ils se sont arrachés la barbe, etc. C'est le pape qui a dû les séparer. Donc Saint Jérôme se retrouve le soir. Tu fais comment avec Saint Augustin maintenant? Voilà. Et ben, tu vas aimer Saint Augustin, c'est-à-dire que tu vas mettre ton cœur dans un amour qui est plus grand que le tien, parce que l'amour que j'ai mis dans le cœur de Saint Augustin est plus grand que l'amour qui est dans le tien. Du moins, l'amour que j'ai mis dans le cœur de Saint Augustin, il est très différent de ton amour à toi. Donc tu ne l'as pas. Tu ne l'as pas. Donc son amour est plus grand que le tien. Parce que cet amour qu'il a dans son cœur, l'amour pur là qu'il a dans son cœur, tu ne l'as pas cet amour-là. Donc il est plus grand que... Et c'est cet amour-là qui doit nourrir ton cœur. Hein? Parce que si vous aimez uniquement ceux qui aiment, l'amour qu'il y a dans votre cœur, les païens en font tant. Ils disent, lui, oui, oui. Ah ben bien sûr, ben voilà, il faut des poissons dans la maison. Ah ben moi aussi, je trouve qu'il faut des poissons dans la maison. Ah mais je suis tout à fait d'accord, je suis même d'accord de mettre quatre aquariums, même cinq si tu veux. Allez, six si tu veux, quoi, six aquariums. Ah ben tout le monde est d'accord avec moi. Qu'est-ce qu'il est bien celui-là, mais qu'est-ce que je l'aime. Ah ben oui, mais enfin bon, donc c'est un amour de similitude à ce moment-là. C'est un amour de similitude, c'est pas un amour de complémentarité, c'est pas sponsal. C'est pas sponsal. C'est pas un amour de complémentarité. Alors le pauvre Saint Jérôme, il dit voilà, enfin, il va falloir que, avec quelques poils en moins, il est obligé de se dire, allez hop, bon d'accord, je vais me mettre dans le cœur de Saint Augustin et je vais déguster cet amour si immensément grand que j'ai jamais connu et qui est beaucoup plus grand que le mien, et je vais nourrir mon cœur. Merci très Saint-Père de nous avoir expliqué, dit Saint Jérôme après devant le Seigneur à Saint Augustin. Et c'est un exercice à faire. C'est un exercice à faire. Que la dernière personne, je ne sais pas moi, qui me déteste, quoi. Qui me déteste. Il y a vraiment des gens qui me détestent. Bon. Ils ont raison, après tout, hein, parce que... Un tas de perversions comme le mien, cette hypocrisie, elle est impure. Non, je comprends qu'il y ait de la haine totale, quoi. Bon, mais c'est pas possible. C'est pas possible, c'est vrai. Alors donc, c'est pas seulement ça, hein, c'est pas seulement que je le comprends, c'est pas ça. C'est que il y a à l'intérieur de lui, dans son cœur, une soif d'amour et nos ennemis beaucoup plus que nous. Une soif d'amour que nous n'avons pas et qui nourrit notre charité. Parce que la charité, c'est toujours pareil, c'est un estomac et a besoin de nourriture. Et c'est pas l'amour qui est dans mon cœur qui va nourrir ma charité. Hein. Mais c'est un amour qui existe dans une soif, un désir de brûlure et de feu qui se trouve au fond de son cœur, un état de désir, de soif ardente, et en même temps de pauvreté, quoi, de pauvreté. Mais il n'est pas dans la haine qu'on voit apparemment, il est sur la croix qu'on oublie trop souvent. Et donc il a un amour plus fort que le mien, parce que moi j'aime à condition de ne pas avoir de croix, tandis que lui il est sur la croix, et il n'a que de la haine, et il aspire à l'amour très 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 pur, sans que Dieu ne délivre tous les torrents de lumière et d'amour, et de dégustation et de délices de l'amour dans toutes les parties, extensives et intensives de ça. Tandis que pour le Padre Pio, lui, il n'y a que l'amour de Dieu, puis c'est tout. Et Jésus lui a dit, mais si je ne mettais pas cet amour crucifié en toi, et que ça fasse éclater les plaies sur tes mains, si je te donnais pas cet amour-là sensible, etc., tu serais en enfer. Tu n'aurais pas supporté de vivre une vie sans ressentir cet amour, même physiquement crucifié. Si je te donnais pas les stigmates, tu serais en enfer. Mais l'autre qui n'a pas de stigmates, il y a un amour pour plus grand que le tien. Lui, il n'a pas besoin de sentir des stigmates. C'est ce que Jésus lui a dit. Alors attends, il est dans la haine qu'on voit apparemment, ou il est sur la croix qu'on oublie trop souvent. Regardez la signification des prières qu'on fait célèbre la nuit pour le musulman, puisque le musulman, il est égorgé par Satan. Il est égorgé. Regardez ce que nous avons fait, nous les juifs et les chrétiens, vis-à-vis des musulmans. Ils le disent, vous nous avez laissé tomber. Vous nous avez laissé tomber, vous nous avez donné le Coran. Le Coran, depuis qu'ils sont enfants, ils apprennent le Coran par cœur, le Coran par cœur, le Coran par cœur, le Coran par cœur. Qui est-ce qui a organisé cette espèce d'étau, cet esclavage, si c'est pas nous, les judéo-chrétiens? On leur a donné le Coran. Il a dit, apprenez ça par cœur, par cœur, par cœur. Et comme ça, grâce à ça, on aura un peuple de gens d'une grégarité, complètement esclaves de la grégarité, du début jusqu'à la fin de leur vie. De génération en génération, on les a mis dans cet esclavage. Même quand les catholiques sont allés en Algérie, etc., au Maroc et compagnie. Qu'est-ce qu'ils ont fait les catholiques? Restez musulmans. On vous dira pas ce qu'il y a dans le Coran. C'était strictement interdit de leur dire ce qu'il y avait dans le Coran, parce qu'ils auraient pu être libérés. Ils auraient pu retrouver la lumière. Ils auraient pu... C'est un esclavage. C'est un esclavage. Le Coran est fabriqué pour grégariser le cerveau. Il a été fait comme ça. C'est le but du Coran. Et qui est-ce qui leur a donné le Coran? C'est les messianiques, c'est les juifs, c'est nous. C'est pour avoir un peuple d'une grégarité totale. Et qui est-ce qui... Et du coup, on ne prie pas pour eux. Et en plus, ils sont tellement grégaires. Puis alors, bon, on le met à l'écart. Restez le plus grégaire possible. C'est terrible, ça. Alors, et on prie pour eux. Et le pape, il dit, il faut prier pour eux. Bien sûr, il faut prier pour eux. Il faut prier pour eux, parce que dans le sommeil, le Coran, ça n'agit plus. Hein. Dans le sommeil, quand ils dorment, alors du coup, on a un pouvoir de libération, on a un pouvoir d'exorcisme. À travers le Coran, ben, ils sont complètement esclaves, serrés comme ça, par ceux qui disent, allez, égorgez-les, haine absolue. Il n'y a pas de père, il n'y a pas de fils, il n'y a pas de Saint-Esprit, il n'y a pas d'amour à l'intérieur de Dieu. Et au ciel, il n'y a que du sexe. Vous vous rendez compte, l'orgasme dure 80 ans pour un seul orgasme. Que des trucs abominables, que des trucs sataniques, sans arrêt. Et dans le sommeil, vous comprenez? Là, on respire en disant peut-être qu'il y a autre chose. Hein. Et nous, on a un pouvoir d'exorcisme. On peut, pour chaque musulman, comme dit l'ange Raphaël à Sainte Marie l'Arabe, pour chaque musulman, il y a un énorme serpent. Alors, vous faites en trois fois, vous prenez le glaive de la transverbération et vous coupez le serpent qui est dans chaque musulman en deux. Et puis après, vous reprenez le glaive de la transverbération et vous coupez la tête du serpent. Et puis après, vous reprenez le glaive de la transverbération. Ça ne suffit pas, il faut couper en deux le lobe ici du milieu. Vous coupez par le milieu le triangle de la tête du serpent pour que le lobe droit et le lobe gauche soient séparés. Alors, vous en aurez fini. Il y a trois exorcismes à faire parce qu'on les a livrés à Lucifer, à Asmodée. Il y a la haine. Et du coup, il y a ces gens-là, il y a ces gens-là une soif inouïe, quoi. Jésus crucifié est en eux. D'ailleurs, on le voit bien, puisque ce sont les seuls qui respectent les commandements de Dieu. Ils gardent la virginité jusqu'au jour du mariage. Ils ne font pas d'avortement. Ils ne divorcent pas. C'est les seuls qui respectent les commandements de Dieu. C'est les seuls. Alors, et si on allait trouver à l'intérieur de leur cœur un amour qu'on serait bien incapable, dans lequel on serait bien incapable de respirer, c'était nous. Alors, on a ce pouvoir, nous, d'exorcisme. On va couper le serpent, on va couper la tête, et avec le glaive. Le glaive. Pas un glaive imaginaire, hein, comme le chevalier André Conny Braille. Non, c'est pas un glaive imaginaire. Hein. C'est un glaive de la transverbération. Regardez, union hypostatique, immaculée, déchirée. Premier glaive, transverbération, immaculée, d'éternité. Deuxième glaive. Ouverture des temps. Dans le paraclet. C'est le paraclet hein, qui fait vivre leur corps endormi. Troisième glaive. Transpercé de part en part. On coupe le serpent. Et on peut tout à fait faire surgir. On peut tout à fait faire surgir en chacun d'entre eux ben, 1 milliard de fois, il y a 1 milliard 200 millions. Bon. Mais il doit y avoir, on va dire qu'il y a 1 milliard qui dorment à ce moment-là. C'est pas mal. Mais ils reçoivent tous, hein, ils n'osent pas le dire, bien sûr, mais ils reçoivent tous la visite. Hein, moi, j'ai vu personnellement. Hein. Ils reçoivent tous la visite du Sacré-Cœur de Jésus. Hein, tous. Mais de manière plus lointaine, parce qu'on oublie de faire les trois. Il faut les aimer dans le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Il faut vraiment faire cette... Et du coup, ils appartiennent. Et quelque part, on regarde à l'intérieur de leur cœur et on voit ben, qu'ils ne sont pas du tout dans la haine, qu'ils sont esclaves de Satan, et bien sûr. Mais qu'au fond de leur cœur, à eux, il y a un amour fou, quoi. Et Dieu le Père envoie son Fils dans l'union hypostatique déchirée, dans son union hypostatique totalement offerte, ouverte. Puis déchiré, puis associé au rideau du temps qui se déchire dans la transverbération immaculée, et qui se déploie dans tout l'universalité, la nature humaine. Voilà pour la troisième transverbération que nous vivons dans l'union transformante du mariage spirituel de la cinquième demeure qui vole dans la charité de la charité catholique de la nuit. C'est pas du tout nous avons des ennemis, oui, c'est vrai, mais nous les aimons, nous avons des ennemis du point de vue terrestre, mais ce sont nos prédécesseurs célestes. Ce sont nos modèles. Ouais, vu le conditionnement dans lequel ils sont, ils sont de nos modèles. Voilà, donc quelque part, c'est vrai, regardez par exemple les enfants, on en a 200 milliards, ils sont de nos modèles. Hein. Regardez, voilà, ils sont poignardés, dévastés, massacrés, déchiquetés, etc. Et puis en plus méprisés. Et puis alors, là je disais, j'entendais une vidéo d'un père de Saint-Jean. Parlant de un amassi biologique. Un amassi biologique avec une âme spirituelle. Est-ce qu'il y a une âme spirituelle dans un amassi biologique? Voilà. Et tout le monde court derrière. C'est toujours. Bon, ça, ce sont. Voilà quelqu'un que c'est. Bien sûr, on pourrait dire, voilà, ça, c'est un ennemi. Ah oui, il est beaucoup plus un ennemi, lui, que le musulman qui égorge une petite fille. quelqu'un plus, un amas si biologique. Ces enfants, là, c'est leur papa, le prêtre, c'est un papa quand même. Mais la maman qui palpite ta mort et ta lumière dans une spontanéité qui est en dehors des séquelles du péché originel, oh là là. Et puis voilà, et puis ce médecin et tout. Oh, qu'est-ce que j'aime, cette description de ce médecin. Un jour, j'ai visité quelqu'un qui a fait une interview. Il dit, on décrit l'enfant, quoi. Là, c'est extraordinaire, quoi. Il arrive avec son broyeur à tirer, ça arrache la main, quoi. Et puis, il pose la main. Pour la première fois, vous connaissez l'histoire par cœur, parce que je l'ai raconté au moins deux fois. Il pose la main, mais pour la première fois, il a fait 40 000 avortements déjà. 40 000, il en avait fait. Il explique. Pour la première fois, je dis, tiens, je vais regarder ce que je fais. Tac, en dehors de l'écran. Il regarde. Il pose la main du petit embryon qu'il avorte. Et il arrache, il pose. Et la main, elle est encore vivante, elle bouge. Et elle se met dans sa direction. Et les doigts se mettent comme ça. Mais gentiment, elle dit, t'en regarde. J'ai quelque chose à te dire pour que je vois que tu me regardes. Alors, il repousse le truc. Hop. Alors, il dit, ça va. Allez, je continue. Il prend son broyeur et il arrache une jambe. Il arrache une jambe. Il broie, il déchire. Il pose la jambe par terre, il la repose et la jambe se met en position. C'est pareil. L'âme est toujours vivante, il bouge. L'âme s'en va pas comme ça. L'âme d'un petit, ça ne va pas comme ça. Je ne sais pas, et nous, c'est en 15 secondes, on est mort. Mais eux, il faut au minimum, je ne sais pas, une demi-heure, peut-être, je ne sais pas. Même complètement déchiqueté. Alors après, il prend son truc, il arrache, il broie, il arrive à broyer le cerveau, la tête, il enlève. Pareil, alors, et puis il n'en peut plus, alors il prend le reste, il arrive à prendre ici, c'est la partie la plus grosse finalement, parce que le cœur est très gros dans un petit embryon de moins 1, donc le cœur est le plus gros, et donc finalement il broie, il sort, et c'est le cœur qui sort, et le cœur bien sûr était vivant, comme celui de Jeanne d'Arc, 500 ans après, Jeanne d'Arc qui palpite toujours, il est toujours bâti, il est toujours vivant, enfin, la petite partie qu'on a pu sauver du désastre. Hein. Le cœur dans les cendres de Jeanne d'Arc battait, quoi, il battait. Il était encore vivant, pour d'amour. Il était encore un petit peu, toujours vivant, immortel, voilà. Alors là, on a découpé un petit morceau. Il y a un des soldats qui en a gardé un tout petit morceau, l'air de rien. Voilà. Il est toujours vivant, ce petit morceau de cœur-là. Vous savez ça? Le cœur de Jeanne d'Arc, toujours vivant. Toujours vivant d'amour. Hein. Et du coup, l'Église fête la solennité de Jeanne d'Arc, et ça passe au-dessus du dimanche de Pâques. Ça veut dire quelque chose, comme ça. Le petit embryon, lui, son cœur continue à battre. Et il se place, il l'a placé, je ne sais pas comment, et le doigt, etc. Et il a vu, il a senti du coup la présence de l'âme, il a vu qu'à travers le corps déchiqueté, il y avait un mouvement qui se faisait vers lui pour lui dire je t'aime, je donne ma vie pour toi. Il a comme entendu le cri de l'âme de cet enfant. Son cœur battait, dit je donne ma vie pour toi. Il a vu qu'il était aimé, il a été bouleversé, c'est devenu un saint. Je donne ma vie pour toi. Il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie pour son ennemi, pour celui qu'on aime. Et voilà. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que cet enfant, il a été baptisé. Ça veut dire que cet enfant, il a été baptisé. Il a reçu la grâce de Jésus dans son union hypostatique. Il a été transverbéré, c'est évident. Il a surabondé. C'est l'union hypostatique, la transverbération. Et l'Esprit Saint qui l'a habité petit à petit. L'enfant est mort. Petit à petit. Plus tu t'approches du début, plus c'est long. Le génome de l'embryon, un amas biologique, mais c'est pas un amas biologique. Au début, tu viens de la Créateur de Dieu, tu es dans la Memoria Dei. Tu peux pas tuer ça. Histoire de la prise est tellement forte de la création d'amour, de lumière et d'acquiescement de la Memoria Dei que le corps et l'âme et l'esprit ne peuvent pas se séparer, pratiquement. Ils peuvent pas. On le voit bien, ces cellules staminales restent vivantes pendant 50 ans. Ces cellules originelles, quelque part, restent. Et si bien que bon, on imagine quoi, que bon, là, un enfant, voilà, aussitôt qu'il est arrêté dans sa course vers l'anidation, le stérilet le tue immédiatement, tu plaisantes ou quoi? Il vit encore pas mal. Il a le temps de donner sa vie. Voilà, et de communiquer ce soupir de l'âme dans ces cellules staminales embryonnaires qui vont rester dans leur temple sainte, son oblation d'action de grâce. Parce que le fond d'un embryon avorté, le fond de sa vie intérieure, c'est l'action de grâce, c'est la gratitude. Il a une gratitude inouïe pour ceux qui le détestent, ne veulent pas qu'il vive, ne veulent pas le broie, sont prêts à tout, quoi. Pour lui faire un mal fou, quoi, une torture terrible, une souffrance atroce. Et que ça continue ensuite après par le mépris, quoi, par l'oubli, par. T'as pas à vivre, toi. Tu vis pas. Voilà. Et est-ce que c'est la famille qui dit, mais non. Voilà, il n'y a rien à faire. On n'a pas. Si un jour on a son prénom, on a été à la messe, on a donné une messe pour lui, il était avorté. Bon. Voilà. Trois mois après, on ne se rappelle même pas de son prénom, il ne fait pas partie de la famille. Un jour, j'ai vu comme ça une petite dame, elle en avait 7, 8. Et je me rappelais de ses prénoms, elle me les avait confiés. Et deux ans après, je la vois, alors je lui donne les prénoms, je dis mais vous vous rappelez de... Bon, je vais pas dire les prénoms, parce que c'est... Je me rappelle encore. Alors, j'ai inventé, allez, Antoine, Iphigénie, etc. Mais c'était ça, alors elle dit, mais moi je me rappelle pas comment ça s'appelle. Elle dit, comment ça, moi je me rappelle, c'est vos enfants, et vous vous rappelez pas comment ils s'appellent. Ben, ça veut dire que vous n'allez pas renoncer alors, puisque vous leur donnez pas la vie, vous n'êtes toujours pas la mère, c'est toujours pas vos enfants, donc c'est toujours. Donc mon absolution était invalide de plein droit. Mon absolution était invalide de plein droit. Parce que vous dites non, ils sont pas vivants pour moi. Je suis pas la mère vivante de ces enfants vivants. Vous voyez ça? C'est des choses toutes simples, qui sont évidentes, quoi, qui relèvent du bon sens. Il faut aimer ses ennemis. Ces enfants-là nous aiment. Ces enfants-là nous aiment. Ces enfants-là nous aiment. Ces enfants-là nous aiment. Nous qu'ils avons oublié à chaque fois, mon Dieu, quelle catastrophe, le chômage, la baisse du niveau de vie de 0,4%. Oh, c'est horrible, hein, ce gouvernement. Et pendant ce temps, ils sont là, des milliards de fois. Et nous, nous vous aimons. Nous sommes en action de grâce. Nous pardonnons, nous donnons notre vie, pour cette humanité complètement broyée, complètement perdue, complètement perverse, complètement abominable, puisse se muer comme ça, en mutation, être arraché à Lucifer, à sa propre férocité, pour rentrer dans la purification de la chair, pour rentrer dans la purification et l'union transformante. Nous donnons notre vie pour ça. Et on peut très bien aussi aimer, si ses enfants sont des ennemis quand même, on pourra pas aller au ski, on pourra pas aller au machin, on pourra pas aller... C'est nos ennemis, puisque on sera même en contre. Avoir 5 chiards dans la maison pendant 15 ans. 5 chiards. C'est nos ennemis, quoi. Et on peut aller dans leur cœur. Et on s'apercevra l'amour qu'ils ont. Parce que autant leur corps et leur âme ont beaucoup de mal à se dissocier. Hein. L'agonie d'un enfant qu'on avorte deux mois, vous voyez, regardez, il va mettre un quart d'heure, 20 minutes, alors qu'un adulte, ça se fait en 30 secondes, c'est fait, avec un traitement pareil. Mais attends. C'est inouï, cette histoire-là, c'est quelque chose. Et Jésus, c'est encore mieux. Alors, ils sont très très proches de Jésus, parce que Jésus, il agonise. Jésus meurt, Jésus est déchiré, Jésus, son âme est complètement anéantie, et il n'y a plus que son corps dans le don du Verbe de Dieu, et la personne intime de l'amour incréé du Verbe de Dieu, sa personne qui se donne, qui se donne, qui se donne, qui se donne, à ceux qui sont, à ceux qui n'ont aucun mérite, ceux qui font aucun effort, ceux qui s'obstinent à dire, mais c'est moi, je... Ah, on ne m'a pas écouté. Alors, il faut aimer ses ennemis. Le pape, j'aime bien ce qu'il dit. C'est la prière, c'est-à-dire l'union transformante. Dans l'union transformante, c'est... À un moment donné, vous voyez, regardez... L'union hypostatique du ciré de Jésus, je vous le répète. Je vous le répéterai toujours. L'union hypostatique de Jésus. Le rideau se déchire du voile de son âme et de sa chair ouverte. Ces palpitations d'amour, d'affection, de tendresse qu'il a à l'état d'une charité toute pure humaine, si sublime, si pénétrante, si profonde. Elle-même est complètement déchirée. Et effectivement, et du coup, en Marie, heureusement, elle se réalise de manière vivante, avec la même déchirure sans qu'elle en meure. Parce que la déchirure de notre Seigneur Jésus-Christ, n'atteint pas et ne tue pas la personne du Verbe. Si bien que quand elle est vécue par l'Immaculée Conception, elle n'a donc pas droit, par nécessité, à anéantir la personne de celle qui le reçoit. Puisque la personne du Verbe n'est pas tuée par l'union hypostatique de Jésus. C'est pour ça que l'Immaculée Conception, elle, n'est pas tuée, parce qu'elle est une créature. Mais c'est la même transverbération, et c'est la même déchirure, et c'est la même, en affinité, intensité d'amour assumée, qui se réalise dans la transverbération immaculée. Et les deux sont une seule. Et c'est quand je m'engloutis dans cette unique, au-delà de l'unité des deux, une hypostatique déchirée, transverbération immaculée, quand je rentre et que je reçois l'unité et au-delà de l'unité des deux, que moi je rentre dans l'union transformante. Et l'amour, et à ce moment-là, cet amour-là, c'est celui qui est disposé à recevoir le paraclet, c'est-à-dire non pas les 7 dons du Saint-Esprit, mais la substance hypostatique du paraclet, l'aspiration passive à créer d'amour. Et là, c'est le pardon qui est donné à tous les ennemis, Même à supposer que ses ennemis disent « je veux » Ah, aller en Dieu. Même je vois cette jubilation qu'on a en Dieu. Quelle beauté, quelle splendeur. mais je ne veux pas y aller, je préfère aller en enfer, je suis, j'ai une dignité, ce que j'ai fait, je tiens quand même à mes poissons. Voilà. Je tiens à mes chevrons. C'est moi qui ai raison. Ah, c'est tout. Alors, il y en a qui sont comme ça. Mais alors, du coup, ben, Dieu les aime de manière inouïe, 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 inouïe. Jésus les aime de manière inouïe, inouïe. Regardez à Gethsemane. Et il les prend pour l'éternité dans sa personne. Il est prêt à prendre sur lui tout ce qui est strictement impossible à vivre comme souffrance dans le tartare éternel. Bon, d'accord, ils vont vivre la peine du dame, comme dit saint Thomas d'Aquin, la peine de la damnation. Mais toutes les souffrances absolument inouïes, 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 que les démons voudraient leur faire subir, Jésus les prend sur lui. Il les prend, il les sauve. Il les aime, il les délivre de tout ça, il leur fait miséricorde, il leur fait miséricorde, miséricorde. Il les respecte, ils veulent aller dans la peine de la nation, c'est pour l'éternité, très bien. Oh, ça hérisse à l'intérieur de l'union apostatique, une agonie inouïe. Il aime ses ennemis, ils veulent garder cette espèce de séparation. Et du coup, on voit, c'est dans l'Apocalypse, hein, on voit ça dans l'Apocalypse, que c'est damné, mais quand même, ils ont peut-être pas de, ils ont peut-être pas de l'amour, mais ils ont la louange, ils ont quand même l'adoration et la gratitude, mais ils n'ont pas l'amour de Dieu, ils ne rendent pas honneur, ils ne glorifient pas, ils ne m'acharnent pas de l'intérieur, ils ne font pas honneur à Dieu, mais il leur manque les trois, mais les quatre sinon d'adoration, de gratitude. Tu te rends compte tout ce que Dieu leur fait encore malgré leur Dieu les aime et ils en profitent. Alors ils le louent, ils l'adorent, ils ont de la gratitude, de la reconnaissance, mais pas d'amour. Un peu comme quelqu'un qui est torturé par un mauvais bourreau, quoi. Le bourreau diminue de moitié ses tortures. Alors, on a quand même une petite gratitude. Et les damnés, ce sera ça, vis-à-vis de Dieu. On n'a pas enlevé la moitié des tortures. Parlons de toutes les tortures possibles. C'est Jésus qui les a pris. Et Dieu, faut aimer ses ennemis. Bon, nous, comment est-ce qu'on peut faire pour aimer nos ennemis? Le pape dit, il faut prier. Moi, je traduis, il faut faire oraison. C'est-à-dire, il faut que ce soit l'union hypostatique de Jésus et la transverbération immaculée de Marie. Il ne va pas jusqu'à briser sa propre personne, puisqu'elle est une personne créée, et aucune des personnes, ni dans l'un ni dans l'autre, n'est atteinte par la destruction totale. Et donc ces deux sont un, et dans l'au-delà de l'unité des deux, eh ben, il y a l'amour. L'amour de gratitude, l'action de grâce, l'Eucharistie. Vivez dans l'action de grâce. Voilà l'épître aux Colossiens, aimez vos ennemis, ayez de la tendresse pour vos ennemis, et de la bienveillance, vivez dans l'action de grâce. Et lorsque c'est ça qui nous envahit entièrement, 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 restons suspendus là, et laissons-nous transformer dans l'action de grâce. Cette action de grâce là, là, il y a, on le voit de toute façon dans... À un moment donné, je ne sais pas si vous avez remarqué, si vous faites vos 20 minutes d'action de grâce après la communion, bon, si vous êtes trop occupé parce qu'il y a le chantier, ça fait rien. Vous attendez 5 heures après. Vous pouvez très bien faire l'action de grâce 5 heures après. Hein. Parce que le sacrement disparaît par la digestion, mais c'est un peu comme un œuf qu'on casse, voyez. Tant que le sacrement disparaît, très bien, la coquille est partie, mais vous avez toujours l'œuf. Et l'œuf, il reste là, jusqu'à ce que vous ayez fait l'action de grâce. Il demeure, on appelle ça la présence réelle. La présence réelle. La présence réelle, c'est pas le sacrement, c'est pas Jésus aussi. C'est quand le sacrement a disparu, hein, vous avez brisé l'œuf, le sacrement a disparu. Mais vous avez encore là, vous avez encore Il va falloir le mettre sur la poêle. Avec de la moutarde, avec de la mayonnaise. Sur le feu de l'amour, comme ça, il va faire l'action de grâce pendant 22 minutes. Vous allez faire cuire l'œuf. Fromage de gruyère. Crème fraîche. Un petit lardon. Voilà, 4 heures après, pas de problème, c'est pas un problème. Mais il faut faire l'action de grâce. Il faut qu'il y ait dans cette présence réelle. Il faut que cette présence réelle. Et vous avez remarqué qu'au bout de 20 minutes, il faut que ça dure 20 minutes. L'avertissement, ça durera 21 minutes. Donc il faut que ça dure un peu plus de 21 minutes. D'autant plus que vous mettez déjà une minute pour vous y mettre. Allez, 22 minutes, allez. Vous avez remarqué qu'au bout de. Vous avez remarqué, on ne peut pas ne pas le remarquer, que si vous ne bougez pas, hein, si vous n'avez pas les. C'est pas magique dans la chapelle. La manière de se maudire. D'accord, donc on va dire. Ici, tranquille, sur le trône, petit roi fraternel de l'univers, abandonné, enfoncé. La paternité qui envoie le Verbe de Dieu. Et votre corps devient comme le corps de Jésus sur la croix. Le corps de Jésus sur la croix n'est plus vivant. Il est mort. Donc il ne bouge plus. La seule chose qui fait bouger, c'est peut-être c'est la foudre. Il ne bouge plus. La seule chose qui fait bouger, c'est le coup de lance mortel qui ouvre. Mais son âme de lui-même, aucun mouvement ne vient de lui. Même pas le petit truc comme ça, même pas un œil qui s'ouvre là, même pas le petit tic là, ou le rototo. Aucun mouvement ne vient de lui. D'accord, aucun mouvement. Et ça que nous a dit Francine, hein, s'il y a un mot. C'est qu'il y a un mauvais choix qui reste encore. C'est une conséquence. Cause, choix, conséquence. Alors, au bout de 22 minutes, quand même, quand j'ai compris le truc, ça va, à un moment donné, il n'y a plus aucun mot vraiment de l'imaginaire, aucun mot vraiment de la pensée, aucun mot vraiment du corps, aucun mot. De l'âme. Aucun mouvement. Il y a juste une vastitude disponible, surnaturellement. Là. Une vastitude disponible où l'union hypostatique des cieux et Jésus est semblable à celle de mon corps est ouvert dans la transfiguration immaculée de Marie. Voilà, c'est extraordinaire cette histoire-là. Et à un moment donné, on voit bien que du coup, comme on a donné l'autorisation au Saint-Esprit, le paraclet de venir du fond de nous, aspirer comme ça, c'est de l'intérieur, hein, aspirer nos puissances, toutes nos puissances, même biologiques, sont aspirées. Et c'est comme si on était comme dans un coma profond, mais en même temps, on entend tout. En même temps, on voit tout. En même temps, on perçoit cette délicate, presque impossible, tellement elle est microscopique. Enfin, pas microscopique, elle est immense, mais c'est une saveur extraordinaire, c'est un esprit qui peut se répandre comme ça à l'intérieur de la nature humaine tout entière à travers nous. Et on le voit parce qu'il y a un poids très 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 fort. Un poids très très fort, comme du corps. Le corps est comme un poids, comme ça. Il faudrait, pour bouger le corps, faire un effort. Et il faut 3 ou 4 secondes pour que le corps commence à se reprendre un premier mouvement. Et tout, on appelle ça le recueillement des puissances. On peut pas ne pas le voir, c'est impossible qu'on fasse l'oraison sans qu'on ait ça au bout d'un quart d'heure, c'est impossible. Ou alors on a fait exprès, quoi. On a dit non, moi je pense à mes poissons. Je pense à Eh bien, au bout d'un certain temps, disons 5 minutes à peu près, de cet horizon, de cet état-là de quiétude, au bout de 5 minutes, si je suis dans un état de gratitude surnaturelle, quasi incréé, éternel, ce que je peux faire puisque je suis libre, je reste libre. À un moment donné, vous ne pourrez pas ne pas le voir. Ça fait clac. Et métamorphose dans le ramassis biologique. Et métamorphose dans le ramassis biologique. Ça fait clac. Ça fait comme une espèce de boule de lumière, quoi, qui vous êtes très proche de l'état du diamant dans les 15 secondes qui ont suivi votre conception. Très proche. Ça fait clac, et ça fait ça. Vous êtes dans la 5e demeure, vous êtes un instrument entre les mains de Dieu qui vous crée. Mais cette fois-ci, il vous crée dans l'union hypostatique de Jésus, dans l'immaculée conception, et dans la disponibilité, l'accueil à l'amour agréé de Dieu. Et là, vous restez, allez, 15, 30 secondes si vous voulez. Une minute, de toute façon. Vous dites, vous pouvez aller partout. Hein. Vous le voyez d'ailleurs, vous pouvez aller partout. Vous pouvez biloquer partout. Vous pouvez. Vous pouvez aller dans le cœur de tous les 200 milliards d'embryons, vous le voyez. Hein, vous pouvez aller dans le cœur de tous les juifs, de tous les musulmans. Tous les, vous le voyez bien. Alors vous laissez Dieu vous transporter là où il veut. Ce serait beau de commencer les prières d'autorité de la nuit comme ça, par la messe d'abord, puis l'oraison, et puis une fois qu'on est là, allez, on se balade en bilocation pour prendre autorité. C'est ça qu'il faudrait faire, en fait. Mais, pour l'instant, on est dans une période pédagogique. Un petit peu différemment. Voilà, il faut aimer nos ennemis. Voilà. Et bien, c'est Jésus qui aime les ennemis. C'est Dieu qui... C'est l'amour de Dieu, c'est l'amour surnaturel qui fait ça. C'est à ça qu'on voit que notre amour est surnaturel, théologal et divin. C'est quand on aime nos ennemis, c'est-à-dire quand c'est Jésus qui fait que on vient s'abreuver de cet amour extraordinaire, méconnu, inconnu, qu'il y a dans le cœur de l'autre, qui dit qu'il nous est. Il l'a dit. Exactement comme quand tu fais. Tu plantes un couteau comme ça dans les parties sensibles. Et ben, la personne à qui tu fais ça te fait aïe! Mais il ne nous hait pas. Il ne nous hait pas. Il réagit. Il est sur la croix qu'on oublie trop souvent. Et si on a ce sens de la croix, on voit tout de suite ce que c'est que l'amour des ennemis. Il n'est pas dans la haine qu'on voit apparemment. Il est sur ma croix qu'on oublie trop souvent. Baudelaire. Les fleurs du mal. Baudelaire. Un poète très chrétien, tu vois. Eh bien, ce serait pas mal qu'on ait l'amour de Baudelaire, parce qu'on irait plus loin que l'amour du cateau moyen. Hein. Bon. Que Dieu soit béni. L'intention de prière, c'est pour que, une fois par mois, nous le faisons comme ça, une fois par mois. Une messe pour glorifier, pour qu'on puisse pénétrer à l'intérieur de la troisième personne de la très sainte Trinité et lui rendre honneur, machin, tout son intérieur. expérimente dans le diable, c'est pas moi qui le savais. De l'intérieur de son épaule, c'est un secret.